Chapitre 7. J'essayais pendant quelque temps de tenir tête à la position fausse en répétant autour de moi que mon mari m'avait quittée pour aller à Paris régler des affaires urgentes. Mais tandis que je m'efforçais de sauver les épaves de notre fierté réciproque, lui ne songeait qu'à la faire sombrer dans un scandale public. Il m'avait écrit que, fatigué de sa vie monotone, il désirait entreprendre un voyage de longue durée, et j'appris bientôt qu'il était en Autriche avec Madame Le Sen. Tout était terminé. J'étais bien la femme abandonnée au milieu de sa première jeunesse, et je n'avais pas encore épuisé les premiers transports de ma douleur et de mon indignation. Pendant 6 semaines, sauf pour la fine, ma porte fut close. Je comprenais la nécessité de me reprendre moi-même promptement afin d'organiser avec dignité ma vie solitaire. Heureusement que, dans des secousses aussi violentes, il arrive qu'une nature énergique découvre en elle une force dont elle ne connaissait pas la puissance. Il arrive également que l'intelligence, aiguisée par la gravité de l'événement, acquiert une lucidité qui lui permet d'analyser le devoir jusque dans ses derniers retranchements. Elle dégage de ses enveloppes toute la responsabilité qui incombe à la femme restée seule pour agir, et la lui montre dans son immense étendue. Moi qui croyais à la transmission d'un patrimoine moral, sans cesse, en méditant près du berceau de ma fille, je me répétais que, lésée d'un côté, mon enfant devait trouver une compensation dans la seconde moitié de l'héritage. Cette pensée enlevait mon esprit d'un coup d'aile et relevait mon courage abattu. Les circonstances matérielles aidaient à l'apaisement de mes idées. Après les frayeurs continuelles des semaines précédentes, la paix de ma solitude amenait une détente physique qui réagissait sur le moral. Dans cette tranquillité extérieure, je commençais à reprendre mes vieilles habitudes de réflexion et, selon certaines tendances de mon esprit, à puiser dans la vue des choses que j'aimais, des forces qui m'entraînaient plus avant dans le courant où les événements, l'affection disparue, m'avaient conduite. Lorsque le soir, me promenant seul et m'efforçant de m'apaiser, j'étais frappé du calme qui existait dans l'accord harmonieux de la nature, je me disais qu'elle se reposait après un jour vigilamment employé et qu'il me fallait, comme elle, travailler pour obtenir le repos. Et, voyant bien que mes mains ne savaient pas tisser, j'essayais d'élever vers Dieu mon cœur et ma pensée pour apprendre à manier mon outil. Lorsque je me sentis enfin en possession de moi-même, je consentis à recevoir mes vieux amis désespérés. M. de Méran m'avait écrit lettre sur lettre, s'accusant avec véhémence de mon malheur et me disant nettement qu'il fallait demander une séparation. Quand lui et Mme Séveline entrèrent dans le salon, ils me trouvèrent en contemplation devant ma fille qui dormait profondément, sa jolie bouche entr'ouverte par un heureux sourire. « Geneviève, ma pauvre Geneviève !» s'écria M. de Méran, sans pouvoir ajouter un autre mot. Pauvre petit automate, il marchait tout agité, avec des mouvements d'autant plus secs que ses ressorts étaient bien détraqués. « Il faut te séparer, Geneviève !» me dit-il en s'arrêtant brusquement devant moi. « Dites-lui que c'est votre avis également, ma vieille amie » ajouta-t-il en se tournant vers Madame Séveline. « Oui, Geneviève, me dit-elle, je crois que nous vous donnons un bon conseil. » Ces vieux visages familiers reportaient mes pensées dans la maison où je les avais toujours vus, où je les avais aimés, où ils étaient à mes yeux un peu comme les très vieux meubles du salon dont on ne parlait pas beaucoup, mais qui étaient parties inhérentes aux habitudes. Et devant le passé qui me paraissait si loin de moi par les événements, par le changement de mon être intime, j'eus une défaillance et me mis à pleurer. « Et dire, s'écria Méran en serrant les poings et d'une voix tremblante, que je ne puis l'étrangler. » Ce mot me fit revenir à la réalité. « J'ai réfléchi, leur dis-je, à cette question de séparation et je ne veux pas en entendre parler. « Pourquoi cela, petite? Nous te soutiendrons de toute la force de notre affection et de notre expérience. » Vous me soutiendrez vis-à-vis du tribunal, mais peut-être n'empêcherez-vous pas la calomnie de m'atteindre. Un procès dont l'issue est d'ailleurs très douteuse est en dehors de toutes mes idées. Tes idées ? S'écria Méran stupéfait. Je ne pus m'empêcher de sourire, car, selon une loi générale, il ne pensait pas que l'enfant, la jeune fille, était une femme déjà mûrie par le chagrin, qu'elle avait une personnalité que la pratique de la vie avait révélée, une femme ayant acquis jusqu'à un certain point l'expérience qui conduit un caractère dans une voie décisive. Cependant, mon inexpérience sur les autres et sur moi-même devait prochainement ressortir bien dangereuse et m'entraîner dans plus d'un faux pas. « Ma fille ne doit pas connaître l'amertume d'une famille désunie, » repris-je. « Je ne veux pas pour moi d'une position fausse, et enfin, je veux qu'il retrouve son foyer s'il le désire. » « Pourquoi diable veux-tu conserver un foyer à cet animal qui l'a déserté ?»« De toute façon, la position est fausse, » ajouta Madame Séveline. « C'est momentané, » répondis-je avec vivacité. « Il n'a pas déserté, il voyage, dans des conditions connues de tout le monde, il est vrai, mais il reviendra certainement, alors la position ne sera plus fausse. »« Et tu consentiras à reprendre une vie de galérien ?» s'écria Méran. « Vous exagérez, et ceci ne regarde que moi, » répondis-je avec un peu d'irritation hautaine. Comme ils étaient loin de toutes les pensées qui avaient fortifié ma résolution pendant ma solitude, j'éprouvais l'impression désagréable d'une pluie froide tombant sur des membres bien pénétrés d'une douce et saine chaleur. Pendant que, le cœur plein de larmes, j'écoutais leurs derniers arguments, un léger rayon de soleil vint glisser dans les cheveux dorés de ma fille et, comme un ami d'une autre sorte, me tenir un langage que j'aimais et qui, dans les instants de faiblesse, me rendait souvent à la haute raison que j'avais choisie pour gouvernail. Attirant mon regard à lui, il le fit monter, se tourner vers le point d'où il partait. Et l'esprit, se laissant entraîner dans l'élan admiratif de mon sens artistique, monta aussi et dépassa ce pâle rayon pour aller se retremper en lettres qui lui avaient donné chaleur et vie. « Mon parti est absolument pris, » dis-je avec fermeté en me penchant sur ma fille pour l'embrasser. « Ah !» dit Méran ébahi, « où est donc la petite Geneviève ?»« Pas bien loin, » répondis-je avec émotion. « Au fond, elle est encore petite et faible, comme vous l'avez connue, mon vieil ami. » Sans ajouter un mot, il me prit brusquement dans ses bras et se précipita hors du salon. Je les regardai monter tous deux dans le vieux Brisca. Ils avaient l'expression anxieuse, un peu comique, de gens qui viennent de faire une découverte tellement inouïe qu'elle sera pour eux un sujet inépuisable de discussion. Dans la même journée, je reçus M. Marien. Il me serra longuement la main sans rien dire, puis la conversation traîna sur un terrain banal, car malgré l'intimité de nos rapports, la délicatesse ne nous permettait pas d'aborder le seul sujet qui nous intéressa. « Vous avez l'intention de passer tout l'hiver ici ?» me dit-il en se levant. « Oui, c'est le parti le plus sage, je crois. » « Dans un sens, peut-être, mais je crains pour vous la grande solitude. Vous êtes bien changé, » ajouta-t-il d'un ton inquiet. « Je vais mieux, cependant. » « Je ne serai pas seule, j'aurai ma fille et mes amis. »« C'est mince, vous me permettez de venir vous voir de temps en temps ?»« Mais certainement, » répondis-je un peu étonné. Quelques jours plus tard, la fille vint s'installer à Rocheplate pour y passer plusieurs semaines. Je lui racontai ma conversation avec mes vieux amis. « Ce n'est pas ton avis, n'est-ce pas, que j'essaie de me séparer ?»« Non, ma chère mignonne. » Je trouve que vous avez bien raison. D'abord, il est probable que vous ne réussiriez pas. J'ai demandé à un monsieur savant, sans dire que c'était pour vous, comme de juste. Ensuite, le temps changera l'affaire. Si vous étiez séparés, vous seriez plus tranquille, c'est vrai. Mais c'est-y une position pour une jeunesse comme vous, sans parents pour la soutenir ? Et surtout pour ma fille, répondis-je. Quand elle sera en âge de comprendre, le temps aura passé, et sinon effacé, du moins atténué l'amertume des faits. Sûrement, vous allez vous ronger le cœur, mon pauvre trésor, dit la fine en ouvrant sa tabatière d'un air méditatif. Non, non, répliquai-je, je suis pleine de courage, tu verras. Je vais rester tranquillement ici, et je m'occuperai de faire un peu de bien pour me sortir de moi-même. Allons, c'est bien, dit la fine sans conviction. Sa physionomie m'intriguait. Elle creusait évidemment une idée qu'elle hésitait à émettre. « Qu'est-ce que tu as ? » dis-je. « Mon parti n'est-il pas sage ?» Tout en passant et repassant son énorme fer sur le linge étalé devant elle, elle me répondit « Ma chère dame, il faut que je vous dise quelque chose. »«
Quoi donc ? » demandai-je inquiète.
« Monsieur Marien est venu vous voir. C'est ben. Vous ne pouviez point ne pas le recevoir, quoiqu'à mon idée, il soit resté trop longtemps. Mais je sais qu'il est revenu, et pourtant, vous ne devez pas continuer à le voir comme autrefois. »«
Ne pas voir un si bon ami ? » m'écriai-je. « Es-tu folle ?»«
Non, non, je ne suis point folle. Je sais ce que je dis. »«
Mais ses habitudes sont prises. Je ne puis pas lui dire de s'en aller. » Tu sais comme Louis l'admettait dans notre intimité.
Si vous croyez que je trouvais ça bien fait, comme c'était rusé, quand on est un gars si désagréable, d'avoir toujours à ses trousses un grand Iroquois qui a l'air si aimable. En tout cas, ce n'est plus la même chose maintenant.
Évidemment, dis-je tout agité, lui-même le sait bien, car il m'a demandé la permission de revenir. Donc il sera discret.
On le voit bien, grogna la fine. Il est revenu ici 3 fois depuis 8 jours.
Qu'est-ce que tu crains, voyons ?
Elle se pencha sur son linge pour humecter un faux pli qui devait disparaître et répondit tranquillement
« Qu'il vous aime, mon trésor, et qu'il ne vienne vous dégoiser l'amour. »«
Tu ne le connais pas !» m'écriai-je avec indignation.
« Lui, lui, me dire qu'il m'aime ? Lui, m'offenser ? Un si brave garçon !»
« Qu'est-ce que ça fait-il donc ça, ma chère mignonne, que ce soit un brave garçon ?» J'en voulais à la fine de me troubler inutilement.
« C'est absurde, dis-je, mécontente. Pourtant, en ce qui concerne la fréquence des visites, je suis de ton avis et le lui dirai tout simplement. Mais je te répète qu'il n'est pas homme à m'offenser. »«
Bouh, offensé !» répondit la fine, haussant les épaules de la façon la plus éloquente.
« Vous me faites rire, ma chère dame !»
Le surlendemain, la température étant très froide, j'étais assise dans le salon, au coin d'un bon feu. Je rêvais tristement, me demandant où ils pouvaient bien être tous les deux à la même heure. Mon isolement m'accablait. Je suivais le jeu d'une flamme qui s'élevait tout à coup pour retomber ensuite, et je la comparais à mon esprit, tantôt dans les nues, tantôt rasant la terre d'un vol d'oiseau bien là. L'arrivée de M. Marien interrompit mes réflexions. Le souvenir des paroles de la fine me troubla d'autant plus que, au fond, ces paroles étaient la cause d'un renouveau de tristesse. Avec sa cordialité affectueuse, il tenta de me distraire en discutant avec moi un ouvrage que je venais de lire. Quel aimable et bon sourire quand je lui exprimais mon indignation sur la conduite des personnages.
« Mais les caractères tout d'une pièce n'existent pas, » me dit-il en riant.
« Je le sais par moi-même. » répondis-je avec mélancolie.
Comme vous dites cela, vous avez l'air encore plus triste qu'à l'ordinaire, ajouta-t-il d'un ton affectueux.
J'appelle ma vaillantise à la rescousse, elle ne répond pas, dis-je tristement.
Je m'étais levé pour aller m'asseoir à ma place habituelle, en face de la vue que j'aimais. Inquiète et malheureuse, je regardais au loin, en songeant à toutes les déceptions méditées à cette même place. Soudain, je tressaillis violemment. Marien avait pris une de mes mains. Il la couvrait de baisers passionnés et, en termes ardents, m'exprimait son amour. Dans mon saisissement, je ne trouvais pas un mot à dire.
« Vous, que j'aime depuis si longtemps, me disait-il, je ne pouvais plus vivre sans vous l'avouer, pas plus que je ne pouvais vivre auprès de vous sans vous aimer. Chaque jour, je prenais la résolution de m'éloigner et chaque jour, je revenais, attiré malgré moi. J'adore tout ici, jusqu'aux moindres objets que vous avez touchés. Je vous aime tant, mais tant !»
Comme je le sentais sincère, et que le cœur aimant qui est sans péché me jette la première pierre, mais ces paroles étaient une musique ravissante et trouvaient un écho dans mon âme bouleversée.
« J'ai longtemps lutté pour ne pas parler, s'écria-t-il, mais il est absurde de demander aux forces humaines ce qu'elles ne peuvent donner. » Il fallait bien que je les trouvasse, moi, ces forces pour me taire. Il était donc écrit que tout me quitterait, que l'ami dont j'avais tant apprécié la délicatesse,
dont la bonté m'avait tant de fois consolée, devait disparaître avec le reste de ma vie dépouillée. Les yeux tournés vers le jardin, je regardais distraitement une petite branche flexible qui, agitée par un vent vif, venait de laisser tomber sa dernière feuille un peu fraîche. Perdue dans l'ensemble du parc, comme moi dans la vie, elle avait dans sa nudité un petit air pitoyable. « Parlez-moi donc !» reprit Marguin avec inquiétude. « Pourquoi ce long silence ? Je n'ai pas voulu vous offenser. »« Et pourtant, vous l'avez fait, » dis-je en le regardant. « Et de vous, je ne l'aurais jamais cru. » « Mon amour respectueux n'a rien qui puisse vous offenser, vous dont j'adore le cœur pur encore plus que la beauté, » me dit-il avec chaleur. Je ne répondis rien. « Pourquoi ai-je parlé ? Je vous ai blessé, je le vois bien, mais l'êtes-vous donc au point de ne pas trouver pour moi un mot indulgent ?»«
Je ne suis pas blessé, » dis-je douloureusement, « mais adieu. »
Il se leva vivement. « Adieu, c'est impossible. Vous ne me renverrez pas. Vous ne briserez pas l'amitié que les circonstances ont consacrée. »«
C'est vous qui l'avez voulu, » répondis-je avec assez de fermeté. « C'est vous-même qui l'avez brisée. »«
Ah !» reprit-il en marchant avec agitation. « J'ai cédé à un mouvement involontaire, je vous le jure. Je ne puis pas revenir sur la vérité exprimée, mais je vous donne ma parole de n'en plus parler. » Si vous me trouvez coupable, n'avez-vous pas pour moi assez d'amitié pour me pardonner ?
Heureusement que j'étais trop troublé pour lui répondre, car déjà, au fond du cœur, je sentais bien que le pardon était accordé.
« Je vous en prie que rien ne soit changé entre nous, » me dit-il en se rasseyant auprès de moi. « Jamais je ne reviendrai sur ce que j'ai dit, et pourtant, » continua-t-il avec ardeur, « si jamais un homme a aimé, c'est bien !»
Il s'arrêta devant mon regard effaré.
« Pardon, c'est le dernier soupir, » dit-il en essayant de sourire. « Je serai toujours l'ami que vous connaissez. Voulez-vous avoir confiance en moi ?»«
Je n'en sais rien, » dis-je en me levant. « Laissez-moi, je ne puis vous répondre maintenant. »
Cependant, au milieu de mon trouble inexprimable, il est bien certain que je me rattachais déjà avec ardeur à l'espoir de conserver l'ami. Lorsqu'il m'eut quitté et que, tout étourdi par l'émotion, je regardais de nouveau inconsciemment cette petite branche d'aspect misérable, je m'aperçus qu'elle n'était pas entièrement nue comme je l'avais cru. À son extrémité effilée, il y avait encore une feuille jaunie, presque morte, qui n'attendait qu'un souffle pour se détacher du rameau.